l'interview avec Madame.
Oui. Depuis quand et depuis combien de temps habitez-vous à Orléans?
Août 1965.
Et qu'est-ce qui vous a amené à vivre à Orléans?
Je vivais à Paris. J'ai été très souffrante et j'ai voulu venir dans une ville calme. C'est ce qui m'a amené à Orléans parce que c'est pas trop loin de Paris. Et comme j'ai des enfants qui sont mariés, l'un habite à Paris et l'une à Issy-les-Moulineaux, ça me fait pas trop loin pour les voir. Je peux aller à Paris et eux aussi venir me voir avec leurs enfants. Voilà.
Vous vous plaisez à Orléans?
Oui. J'ai eu du mal à m'acclimater, mais maintenant ça va.
Et est-ce que vous comptez rester à Orléans?
Oui. Oui, parce que j'ai acheté une maison à Olivet pour plus tard.
Et qu'est-ce que vous faites pendant la journée, madame? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites comme travail?
Eh bien, écoutez, jusqu'à de 1h de l'après-midi à 3h, je déjeune et je vais faire des emplettes, me promener, regarder les vitrines. Et après 3h, je viens ou dans le bar, ou bien la barmaid s'occupe des affaires.
Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre travail qui vous plaît et qui vous déplaît? C'est-à-dire, qu'est-ce qui compte le plus pour vous dans votre travail?
D'être agréable avec la clientèle, c'est surtout ça. Et puis, parler avec mes employés, et puis plaisanter. Tout.
Et si vous ne faisiez pas ce métier-là, qu'est-ce que vous aimeriez faire?
Eh bien, écoutez, avant d'avoir le bar, j'étais photographe. Et je photographiais uniquement des petits-enfants. Et alors, j'avais toujours quand même un contact avec des gens. C'était pas la même clientèle, mais j'avais toujours des... Je parlais... C'est difficile à expliquer. Mm-hmm. Malgré... Voyez, ici, les clients viennent, on leur parle. D'ailleurs, ils viennent ici pour se détendre. Alors, ils nous parlent. Quand j'allais chez les gens qui faisaient photographier leurs petits-enfants, les mamans étaient fières de me dire il a eu sa première dent à tel âge. Enfin, vous voyez, j'avais toujours un contact avec les gens.
Des gens. C'est ça. C'est ça ce que vous aimez.
Oui. Oui, et là, ça me manquerait. Vous voyez, ça me manquerait d'être toute seule, de ne voir personne.
Alors, de plus en plus de femmes mariées travaillent aujourd'hui, madame.
Oui, moi, je suis veuve.
Oui. Mais je sais. Mais vous m'avez dit oui. Que vous êtes veuve. Mais. Vous, personnellement, est-ce que vous êtes pour ou contre que les femmes mariées travaillent?
Mais écoutez, si le mari a une situation qui lui permet de rester à la maison, c'est préférable, quand elle a des enfants. Mm-hmm. Sinon, je ne vois aucun inconvénient à ce qu'une femme travaille. Ça lui donne une certaine liberté de travailler. Mm-hmm. Bon.
Et qu'est-ce que vous faites de votre temps libre, madame?
Je suis avec mes enfants. Ou alors je vais voir mes parents qui sont âgés, qui habitent campagne.
Et le samedi et le dimanche?
Je travaille.
Toujours.
7 jours par semaine, c'est ouvert.
Alors, dimanche dernier, par exemple, vous avez travaillé?
Attendez, dimanche dernier... Oui, j'ai travaillé, mais avant, je suis allée déjeuner avec une partie de mes enfants. Mm-hmm. Et le dimanche, on ouvre à 5 heures, ce qui me laisse plus de temps pour profiter de mes enfants et puis du bébé qui vient de naître.
Bon. Et que ferez-vous pendant les vacances d'été?
Eh bien, écoutez, il y a 2 ans que je n'ai pas pris de vacances. Alors, je ne sais pas si cette année, je vais en prendre. Mais en principe, je pars en voyage loin pour me dépayser complètement. Mm-hmm. Je suis allée en Amérique, je suis allée en Russie, je suis allée en Turquie. J'aime bien me dépayser complètement. Ou bien je reste à Orléans, je ne bouge pas. Ou bien je vais dans des horizons nouveaux.
Un changement tout à fait complet.
Exact.
Qu'est-ce que vous cherchez quand vous voyagez ailleurs, alors, part du changement?
De voir les beautés du pays que je visite, et puis d'aller dans les musées, d'aller visiter les cathédrales, les églises, enfin, toutes les curiosités qui sont à voir.
Si, par exemple, madame, vous aviez 2 heures de temps libre supplémentaire par jour, que feriez-vous de ce temps libre?
Je m'occuperai j'irai chez ma fille. Je resterai avec elle, m'occuperai du bébé, ou on irait promener l'enfant, ou...
C'est quelque chose
ou je ferai de la broderie. Je ferai de la broderie, parce que j'adore ça, oui.
Et à votre avis, madame, qu'est-ce qu'on devrait apprendre surtout aux enfants à l'école?
tellement de choses qu'il devrait savoir.
Mais est-ce qu'il y a quelque chose de spécial, surtout à l'école, par exemple?
À l'école? Déjà, à savoir ce qu'ils peuvent faire dans la vie, et puis les diriger dans la branche qui leur est ouverte. Par exemple, voyez, moi, ce qui a manqué à mes enfants, c'est que leur père est mort très tôt, et moi, j'ai essayé de les diriger du mieux que j'ai pu, mais je n'ai pas complètement réussi. J'ai bien réussi avec mes filles, mais pas bien réussi avec mes garçons.
Pourquoi?
Parce que mes garçons comptent trop sur moi. Peut-être que j'ai été une mère trop possessive ou trop excessive, je ne sais pas. Mais ils comptent trop sur... Par contre, mes filles se débrouillent très bien. Mes enfants, mes deux garçons sont toujours en train de réclamer mon aide. Mon fils qui est à Paris, il me téléphone sans arrêt. Maman, viens m'aider, j'ai des ennuis, viens. Et il a 27 ans et demi. Par contre, mes filles, il y en a une quasi, même pas 19 ans, elles se débrouillent très bien. Elles sont bien mariées, mais enfin, mes garçons ont toujours besoin de moi.
Il y a toujours maman.
Oui. Et leur père a beaucoup manqué, vous voyez. Et si leur père avait été là, lui, ils auraient vraiment bien mieux dirigé, je crois. J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais...
Alors, toujours au sujet de l'école, qu'est-ce que vous pensez du latin à l'école, madame?
C'est nécessaire pour écrire un très bon français. C'est la racine, mais... Je ne sais pas si c'est tellement nécessaire dans... Selon le métier que les enfants choisissent, c'est bien. Mais d'un autre côté, je ne sais pas si c'est tellement indispensable. À mon sens, vous voyez, je me trompe peut-être.
Et parlons toujours des matières. Dans quelle matière est-ce que vous croyez est-il bon qu'un enfant soit fort?
En français.
En français.
Pour moi, il me semble que c'est bien.
Et qu'est-ce qui fait que les enfants réussissent ou ne réussissent pas à l'école?
Ça, c'est une question de courage aussi. Parce que vous voyez, par exemple, ma fille aînée a très bien réussi. Elle parle plusieurs langues étrangères. Elle est très bonne en français, très bonne en grammaire. Et elle voulait pas jouer. Il fallait presque la gronder pour qu'elle joue. Par contre, les garçons, eux... Ils jouaient d'abord et ils travaillaient après. Alors ça, je crois que c'est important.
Et jusqu'à quel âge est-ce qu'il faudrait que les enfants continuent leurs études?
Écoutez, mon fils aîné est allé à l'école jusqu'à 20 ans. Ma fille aînée a fait des grosses études aussi. J'ai un de mes fils qui n'a rien voulu faire. Et j'ai ma dernière fille, elle a eu un accident de voiture, elle a dû interrompre ses études. Mais pour avoir un bon bagage, il faut quand même aller au moins jusqu'à 20 ans, jusqu'au service militaire, pour avoir un bagage. À mon sens.
Et c'est la même chose pour les garçons et les filles?
Bien, tout dépend des capacités des filles, tout dépend ce qu'elles veulent faire. Si elles ont l'intention de continuer à travailler, il faut tout de même qu'elles... C'est comme un garçon, il faut qu'elle ait un métier. Mm-hmm. Bon, il me semble que c'est comme ça que je voyais les choses. Pour mes filles, je vous dis à part la dernière, mais pour ma grande fille, j'ai voulu qu'elle ait un métier, qu'elle ait un bagage. J'ai fait pareil pour les filles que pour les garçons.
Alors, pour revenir à la ville d'Orléans, est-ce que, d'après vous, on fait assez pour les habitants à Orléans?
Écoutez, moi, je ne demande jamais rien à la ville puisque je suis commerçante. Alors, je ne sais pas si on fait assez pour les pauvres, si on fait assez pour les vieillards. Je vois bien, on fait des petits repas, des choses comme ça. Je vois sur les journaux, mais honnêtement, vous voyez, moi, quand j'ai besoin de donner à des personnes nécessiteuses, je le fais seule. Vous voyez, moi déjà, j'ai mes parents pratiquement à ma charge. J'ai une vieille tante à qui que j'aide. Et puis, j'ai mes malheureux, je fais partie de la SPA, c'est pas les gens, c'est les bêtes, mais enfin, en principe, je m'occupe moi-même de certains nécessiteux.
Mais...
Alors, je suis pas au courant... Si la ville fait suffisamment. Honnêtement, je ne suis pas au courant.
Bon. J'ai dit « on ». Est-ce qu'on a fait assez pour... Ou est-ce qu'on fait assez? Pour vous, ça représente qui?
D'après moi, je pense que vous parlez de la municipalité. Mm-hmm. Oui. Alors ça, je ne sais pas. Moi, personnellement, je fais mon bien moi-même. Vous voyez? Quand je peux, j'aide... j'aide certaines personnes, je donne, je ne jette jamais de vêtements qu'on ne met plus, je ne jette jamais de vieux rideaux, des choses comme ça, je donne.
Et est-ce qu'il y a d'autres personnes qui comptent ou qui ont de l'influence à Orléans, à part de la municipalité?
Oh bien, il y a les bureaux d'aide sociale, je suppose. Enfin, c'est tout ça, c'est tout la municipalité. Mmh. Bon.
Alors, je vais vous poser une question maintenant, madame, un peu différente.
Oui.
On a beaucoup parlé des événements de mai dernier.
Oui.
Alors, moi, je n'étais pas en France à l'époque.
Oui.
Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce qui s'est passé?
Difficilement, les gens sont... D'ailleurs, c'est-à-dire, il y a eu un agitateur qui a commencé à faire des perturbations vers les étudiants. Et ça s'est répandu dans toutes les universités. Entre autres, à Orléans, il y a eu des manifestations, mais ça s'est assez bien passé à Orléans. Ça s'est passé dans le calme. Les gens ont manifesté, mais dans le calme. Même les ouvriers ont manifesté. Il n'y a pas eu de... pas une bataille de, comme à Paris, il n'y a pas une bagarre, il ne semble pas qu'il y ait eu rien de tout ça ici à Orléans.
Et comment est-ce qu'on peut expliquer ces événements?
Vous savez, moi je suis mal placée pour vous en parler, je m'occupe pas tellement de politique.
Madame, est-ce que vous croyez que les différences entre les classes sociales sont très marquées à Orléans?
Oh, non. Non, parce que nous, on a affaire à une clientèle aisée, même une clientèle d'ouvriers. Ils dépensent aussi bien les uns que les autres. Enfin, chez nous, dans notre commerce. Il n'y a pas de différence entre les ouvriers, les employés de bureau et puis des patrons. Pour nous, hein, il n'y a pas de différence. L'ouvrier dépense aussi bien s'il a envie de dépenser que... Et même peut-être plus facilement.
Mm-hmm.
Je crois qu'il dépenserait même plus facilement, il comptera moins qu'un patron, par exemple.
Et à quoi est-ce qu'on reconnaît, disons, un ouvrier ou un patron?
À sa façon de se tenir. Enfin, on fait une différence à la façon de se tenir, la façon de se présenter, et puis bien souvent la façon dont il est habillé. Je dis bien que, quoique l'après-midi, on a bien des patrons qui viennent en tenue de travail, mais ils ont tout de même une façon de se tenir.
Bon, merci madame. Alors, je vais vous poser d'autres questions et je vais essayer de décrire des notes. Alors, y a-t-il chez vous un dictionnaire?
Oh, plusieurs, oui.
Plusieurs. Lesquels?
Oh, j'ai plusieurs Larousse.
En combien de volumes alors?
Oh, on a une encyclopédie, on a...
Encyclopédie aussi.
Oui.
Larousse.
Oui. Et puis en ce moment, je suis en train d'en constituer deux alphas. Une encyclopédie universelle et puis une de géographie.
Et où est-ce que vous gardez ces dictionnaires et ces...
Eh bien, j'en ai à ma maison de campagne et j'en ai ici.
Et vous les avez depuis quand?
Oh, écoutez, il y en a que j'ai depuis plusieurs années et d'autres que l'on constitue par fascicule, vous voyez, toutes les semaines.
Par fascicule?
Oui.
Bon. Alors, vous les achetez alors?
Oui, toutes les semaines. Il en paraît toutes les semaines.
Et... combien de fois par mois, par exemple, est-ce que vous vous en servez?
Écoutez, j'ai au moins une fois par semaine, au minimum.
Et là, quand l'avez-vous regardé pour la dernière fois?
Eh bien, hier.
Hier, pourquoi, madame?
Parce que j'ai acheté le dernier fascicule paru hier. Alors, chaque fois qu'il paraît, je le consulte et puis je le mets de côté et ensuite je les relis.
Et d'habitude, quel genre de choses y cherchez-vous le plus souvent?
Tout. Je m'intéresse à tout.
L'orthographe?
Tout.
Le sens?
Tout. Quand un mot m'échappe, je regarde.
Possédez-vous d'autres dictionnaires du genre, disons, de Larousse ménager? Médical.
Non, c'est pas un Larousse ménager, c'est une encyclopédie de jardinage, d'art ménager, si on peut dire aussi. Mm-hmm.
Et possédez-vous un livre sur l'art de parler, ou l'art d'écrire, ou les difficultés de la langue?
Oui.
Et quel?
Oh, je ne saurais pas vous dire le titre. C'est surtout pour des verbes. Tous les verbes, la façon dont on les...
La conjugaison.
Oui, c'est ça.
Bon. Vous ne pouvez pas vous rappeler le nom de ce livre?
Non, je serais incapable.
Et vous, est-ce que vous trouvez utile ce livre?
Oui. D'ailleurs, tout ce qui est culture, je trouve ça très utile, même à mon âge, vous voyez.
Bon. Et faites-vous jamais des mots croisés?
Oh, j'en fais au moins 7 à 8 tous les jours.
7 à 8?
Oh oui! Oui.
Tous les jours.
Oui.
Lesquels, par exemple?
Je fais des Max Favalelli, La Ferté, Favalelli, et puis... Je ne sais plus les noms.
Non. Et pourquoi est-ce que vous faites?
Parce que ça m'entretient, ça entretient la culture, je trouve. Mm-hmm.
Je vous ai déjà demandé si vous pensez qu'il soit utile que les enfants apprennent le latin à l'école.
Je vais vous redire ce que je vous ai dit tout à l'heure. Selon la profession qu'ils choisissent, ça peut être utile. Par exemple, s'ils veulent être avocats, c'est bien. Bon. S'ils veulent être ouvriers, aller dans une école professionnelle, je ne trouve pas que ce soit tellement nécessaire. Enfin, il me semble.
Et que pensez-vous de ce qu'on appelle le franglais, madame?
Moi, j'ai rien contre.
Rien contre?
Oh, non, j'ai rien contre.
Est-ce que vous pouvez donner des exemples de ce que vous comptez en franglais?
Oh bien, par exemple, c'est pas vraiment du franglais, mais tennis, par exemple, c'est pas français. Mm-hmm. On mange des hamburgers, on mange des steaks, c'est pas français. Mm-hmm. Enfin, moi, j'ai rien contre.
Et le snack bar?
Oui, les snack bars, les self-service, qu'est-ce qu'il y a encore? Suggérez-moi, vous.
Bon, mais vous connaissez le terme, les
anglais. Oui, mais enfin, je trouve que c'est... Moi, j'ai rien contre. Par contre, vous voyez, je suis allée à Montréal, il y a 3 ans, et quand on sortait d'un grand magasin, comme le Printemps ou les Galeries en France, sur la porte, au lieu de dire « merci d'être venu faire du shopping », il y avait marqué sur la porte « merci d'être venu magasiner chez nous ».
Ah.
Oui, ça m'a frappé, vous voyez, à Montréal.
Ah. Et magasiner pour vous, c'est...
Ça veut dire faire du shopping.
Alors, quel est le français pour vous?
Le français, c'est magasiner.
Oui. Hein,
mais le terme le plus courant, c'est faire du shopping.
Bon, c'est ça.
Ah, ça m'a frappé. Enfin, frappé, ça m'a paru bizarre, c'est même amusant. Oui, merci d'être venu magasiner.
Mais on ne voit pas ces phrases ici, à
Orléans? Non, même on nous dit pas merci d'être venu faire vos emplettes chez nous, ni merci d'être venu faire du shopping. On voit rien. Mais il a fallu que j'aille à Montréal, aller dans un grand magasin, je vous dis comme les grands magasins en France, et sur la porte, il y a une petite affiche. Merci d'être venu magasiner chez nous. Alors ça m'a plu, ça. Ça m'a paru amusant.
Alors, ça vaut la peine de voyager.
Ah oui, mais oui, justement. Enfin, c'est pas uniquement pour ça, mais on voit des tas de choses.
Oui.
C'est comme à Montréal, ils parlent un français, mais un français qui paraît vieux. C'est pas de l'ancien français, mais presque. Ils emploient des termes que nous, on n'emploie pas chez nous. Des termes un peu... Et puis, ils roulent les airs un peu comme dans le Berry, vous voyez. C'est amusant.
Mm-hmm.
Ils sont très sympathiques, hein. Au Canada, oui.
Je n'ai jamais visité.
Ils sont très sympathiques.
Et selon vous, y a-t-il des différences dans la façon de parler français entre les gens appartenant à des milieux sociaux différents?
Oh oui.
Et ces différences sont-elles très grandes?
C'est-à-dire que, c'est toujours la même chose, on a des clients qui viennent qui sont ou beaucerons ou solognaux, qui emploient des termes que l'on n'emploie pas couramment. Mm-hmm. C'est des termes à eux, c'est pas du patois, mais c'est des termes vraiment bizarres. et puis ils déforment le français. Ils disent « je pense ben », « tu vas ben », enfin c'est ça qu'ils disent. Hein? Mm-hmm. Non, ça déforme le français.
Ça déforme.
Oui.
Et est-ce que ces différences ont de l'importance pour vous, madame?
Oh non, parce qu'on on trouve toujours moyen de se comprendre. Non.
Selon vous, les gens parlent-ils de mieux en mieux ou de plus en plus mal ou...
Ça dépend du milieu.
Et de quoi cela vient, croyez-vous?
Ben, vous savez, quand les parents ne parlent pas un bon français, les enfants les copient, ils répètent les mêmes termes.
Et parmi vos connaissances, quelle est la personne qui parle le mieux le français?
Oh, c'est un... J'ai un de mes amis qui est ingénieur chimiste, qui a fait l'école des HEC. Lui, il parle un français parfait. D'ailleurs, il parle plusieurs langues étrangères à la perfection.
Un ingénieur chimiste?
Oui, et qui a fait aussi l'école des HEC. Alors, c'est un monsieur qui parle à la perfection.
Et parmi les gens que vous êtes amené à entendre parler, même sans les connaître,
oui.
Qui parle le meilleur français, le mieux de français?
Certains de mes fournisseurs, par
fournisseurs.
Exemple. Oui, alors les patrons.
Les patrons.
Oui.
Et est-ce qu'il y a en France, madame, un organisme officiel qui décide si un mot ou une expression fait partie ou non du bon français?
Ah oui, c'est l'Académie.
Académie. Est-ce que c'est inutile?
Oui, enfin, par contre, il y a certains mots qui sont courants que l'on ne veut pas faire entrer dans le dictionnaire. Et pourtant, je trouve que ce serait pas mal.
Vous croyez que l'œuvre, c'est-à-dire la tâche de cette académie, c'est très utile ou utile ou...
Moyen, pour moi c'est moyen, c'est pas indispensable.
Pas indispensable.
Non.
On dit quelquefois que la langue française se dégrade. Qu'en pensez-vous?
Non, je ne pense pas. Non.
Vous croyez que les changements de la langue n'ont pas grande importance?
C'est-à-dire comment?
On a dit que la langue française se dégrade. Vous avez dit non. Mais on a parlé, n'est-ce pas, des mots qui se trouvent en français. Non?
Oui, mais regardez par exemple quelqu'un qui est allé à l'école, qui a fait des études. On lui a passé ces mots déformés. Il a appris à parler un français convenable. S'il est allé dans des grandes écoles... Il dit plus je pense bien. Comme certains, il dit plus ça. Il dit je pense bien. Ou, vous voyez, mais il n'a plus les termes du terroir. Il parle français convenablement. D'ailleurs, parce que de toute façon, on se moquerait de lui à l'école. Alors, vous savez, les enfants sont très cruels. Et s'il parlait, si, par exemple, dans une grande école, je ne parle pas s'il est à la campagne, à l'école communale, puisque tous les enfants parlent la même chose. Hein? Mais s'il est dans une grande classe, dans une grande école, et qu'il parle comme dans la ferme, ça n'ira pas. Alors, automatiquement, il doit parler convenablement.
Et est-ce qu'il faut obliger les journalistes et les speakers de la TV et la radio à employer un bon français?
Ah oui. Ah oui, ils doivent donner l'exemple.
Et les professeurs?
Ah aussi, bien sûr. Justement, ils doivent donner l'exemple.
Serez-vous favorable à un contrôle des journalistes et des professeurs et les speakers dont j'ai parlé?
Ah oui, moi j'estime qu'ils... Je vous dis, ils doivent donner l'exemple.
Bon. Et vous croyez que c'est très important alors d'avoir ce contrôle?
Mais oui, parce que, regardez, maintenant de plus en plus, les enfants regardent la télévision. Moi je ne la regarde pas, je n'ai pas le temps. Mais les enfants regardent la télévision et écoutent en même temps. Si on leur donne des bons... Si on leur parle en bons termes, ils répéteront. Si on leur dit n'importe quoi, ils répéteront n'importe quoi. Les enfants sont des petits singes et des perroquets.
C'est ça.
C'est vrai? Enfin, moi, c'est, je vous dis ma façon de voir. Hein. Je ne sais pas si tout le
monde... C'est exactement ce que je cherche.
C'est ça. Moi, je vous dis comme je vois et comme je pense.
Et comment devrait-on exercer ce contrôle dont nous avons parlé?
C'est-à-dire que, puisque tout le monde écoute ce qui se dit ou à la radio ou à la télévision ou lit les journaux, enfin tout le monde, la grande majorité, eh bien, quand il y a une erreur de commise, on devrait la signaler.
Aujourd'hui, à votre avis, l'orthographe et la correction de la langue sont-ils enseignés aussi bien, ou mieux, ou moins bien que du temps que vous étiez vous-même à l'école?
Écoutez, moi, mes enfants ont quitté l'école il n'y a pas si longtemps, et on s'en... Vous savez, ils avaient des devoirs de grammaire, de vocabulaire, d'orthographe, c'était sérieux, hein.
Et vous croyez qu'on enseigne moins bien l'orthographe?
Oh non, je ne trouve pas.
Aussi bien?
Oh, oui, et même peut-être mieux.
Même peut-être mieux.
Oui, j'ai l'impression.
Et la correction de la langue?
Vous savez, j'ai l'impression que les professeurs s'expriment aussi bien. Un professeur qui veut faire son travail convenablement s'exprime toujours aussi bien.
Et dans quelle matière, madame, étiez-vous le plus fort à l'école?
Eh bien, moi justement, en français. Et puis, j'aimais bien les maths, mais enfin, moyen. J'étais moyenne, hein. Et j'adorais la géographie. Enfin, c'est pas les matières, si je veux dire. Ça, j'aimais beaucoup le français.
Et habituellement, avez-vous quelque chose dans votre sac à main, quelque chose pour écrire?
Oui.
C'est quoi?
J'ai un carnet, et puis j'ai un stylo. Si j'ai quelque chose à noter, je suis à même de le faire.
Vous avez dit un stylo. Stylo.
Plume.
Et à la suite de quelles circonstances, madame, avez-vous possédé pour la première fois un stylo plume? À quel âge?
Après mon certificat d'études.
Ah oui, parce que sois sûr, hein.
J'avais des porte-plumes parce qu'à l'époque, vous savez, c'était un luxe d'avoir un stylo-plume.
Mmh.
C'était un luxe. Alors, oh, j'avais bien 14-15 ans. Oui, je devais avoir 14-15 ans.
Et depuis quand avez-vous écrit pour la dernière fois?
J'ai écrit à quelqu'un.
N'importe quoi.
Hier.
C'était pourquoi?
Je notais des... D'ailleurs, je notais des titres de livres que je devais acheter. Parce que je lis beaucoup.
Ah, je ne peux rien faire à ce sujet. Avez-vous besoin d'écrire pour votre travail?
Non, pas spécialement. Si pour envoyer des chèques, des choses comme ça, alors j'ai quelques mots à mettre, vous savez, veuillez trouver 6 juin. Enfin, c'est pas des grandes lettres.
Et habituellement, portez-vous sur vous un carnet?
Oui.
Et un agenda?
Oui.
Et quelque chose d'autre?
C'est-à-dire?
Oui. C'est pas bloc-à-notes ou quelque chose comme ça.
Sur l'agenda,
vous avez tous
oui, sur l'agenda, on peut tout noter. J'ai un carnet d'adresses, des choses comme ça. Mm-hmm.
Si vous devez dire quelque chose à une personne habitant, disons, à 5 km de chez vous, préférez-vous vous déplacer ou lui écrire une lettre?
Si c'est à 5 km, je préfère me déplacer de façon à mieux m'expliquer et avoir la réponse tout de suite.
Et si cette personne, par exemple, et vous êtes supérieur, est-ce que vous vous déplacez ou vous écrivez?
Si je peux me déplacer, je préfère.
Pourquoi, madame?
C'est une marque de politesse.
important selon vous d'avoir une belle écriture?
Une écriture lisible. Une belle écriture, c'est pas. Une écriture lisible, c'est ça.
Et est-il important selon vous d'avoir de l'orthographe?
Ah oui, ça c'est aussi une marque de politesse, écrire convenablement.
Seriez-vous favorable à une réforme de l'orthographe?
C'est-à-dire qu'il y a certains... Vous voyez, par exemple, pour certains étrangers, c'est difficile d'apprendre notre langue. Parce qu'il y a tellement de mots qui s'écrivent de la même... Enfin, qui se prononcent de la même façon et qui ne veulent pas dire la même chose. C'est difficile. C'est plus facile d'apprendre une langue étrangère pour nous que pour les étrangers apprendre le français.
Vous croyez?
Il me semble.
Et si on change l'orthographe, s'il y a une réforme de l'orthographe, vous croyez que ce sera mieux?
Moi, je suis tellement habituée à écrire le français comme il s'écrit, ça me changerait terriblement.
Alors, je vais parler de votre mari, je sais pas. Mais qui de vous ou de votre mari écrivait habituellement à des amis, par exemple, à des amis?
Ça a toujours été moi.
Oui. Et pour la famille de votre mari?
J'ai toujours écrit parce que mon mari était très instruit, mais il écrivait très mal.
C'est là, toutes les lettres, alors?
J'écrivais tout, aussi bien pour la maison qu'à la famille. J'écrivais tout parce que mon mari écrivait mal, et il préférait que je m'en charge.
Et les papiers administratifs?
Je m'occupais de tout. Il me faisait confiance pour tout. Évidemment, je lui demandais conseil, puisqu'on formait un très bon ménage.
Et qui de vous, c'est-à-dire de votre mari, vous possède la meilleure orthographe ou la plus belle écriture?
C'était moi. Mon mari faisait des fautes d'inattention. Mais c'était pas... Il avait... Quand il corrigeait quelque chose, parce qu'il était chef comptable. Bon, alors vous voyez, il avait tout de même une profession, c'était pas... Il fallait tout de même qu'il écrive convenablement. Alors justement, comme il avait une très mauvaise écriture, il écrivait tout en ronde. Il écrivait tout en ronde pour que tout soit net. Alors qu'il fallait écrire à la famille ou à la mairie ou...
Et qui parle le meilleur français? Ou Louis?
C'était égal, oui.
Et combien de lettres écrivez-vous en moyenne par mois? C'est-à-dire pour le travail d'abord?
Peut-être une quinzaine de lettres. Environ.
Et hors travail?
En principe, vous voyez, je vais voir mes amis, je vais voir mes parents, ou je téléphone. Alors, j'écris pas beaucoup. Peut-être 3-4 lettres, c'est tout.
3-4.
Oh oui.
Et conservez-vous les lettres qu'on vous envoie?
Non. Non, parce que quand j'ai répondu, je les déchire.
Et quand vous écrivez à vos amis, est-ce que vous faites d'abord un brouillon?
Non.
Et faites-vous attention aux fautes d'orthographe?
Ah oui, ça je me relis, oui. Ça, j'y fais
vous
très...
le relis?
Ah oui, je me relis, ah oui, ça j'y fais très attention.
Et vous écrivez avec un stylo
plume.
Et quel type de papier utilisiez-vous?
Du bon papier.
De quelle couleur?
En principe, gris.
Gris. Et à ligne?
Non.
À carreaux?
Non.
Et que pensez-vous des gens qui se servent du papier à ligne?
J'aime pas.
Pourquoi, madame?
Je trouve que ça fait vulgaire.
Et quand vous C'est-à-dire, quand vous avez dû écrire un mot d'excuse à l'école de vos enfants, oui. Est-ce que vous avez fait un brouillon?
Non, mais j'ai écrit une lettre assez brève, mais toujours sur du papier correct et avec des formules de politesse.
Et vous arrive-t-il d'utiliser quelquefois un papier, du papier à carreaux?
Non, jamais. Sauf pour ma comptabilité, c'est tout.
Y a-t-il des choses qui vous agacez dans la façon dont parle de votre mari?
Non.
Et est-ce que vous êtes arrivé de le reprendre quand il parlait?
Non.
Y a-t-il des choses qui, lui, reprendre?
Je parlais très, très vite quand on s'est connus. Ma belle-mère et la grand-mère de mon mari me comprenaient difficilement. Alors j'ai dû m'observer, voyez, parler plus lentement.
Et y a-t-il des choses qui vous agacent dans la façon de parler de vos enfants?
Oui, oui, parce que voyez, ils sont jeunes, ils emploient des termes qui par moments me choquent, vous voyez.
Vous arrive-t-il de les reprendre?
Oui. Oui, parce que vous voyez, comme les jeunes, ils emploient des termes que on n'aurait pas. Moi, je n'aurais jamais osé employer devant mes parents. Mais pas des termes. Mais tout le monde, tous les jeunes disent certaines choses. C'est battre, des choses comme ça. Vous voyez, j'aurais pas dit ça devant mon père, moi. Ça, j'aurais pas, ce serait pas permis.
Y a-t-il des mots que vous avez interdits de prononcer à vos enfants?
Oh, non, enfin, oui, oui, par exemple, je veux pas qu'ils disent ses pattes, je veux pas qu'ils disent, comment, vous savez, les termes que les jeunes emploient. Je ne vais pas dire, moi, ça ne me revient pas sur l'instant, mais vous savez, des termes de jeunes maintenant, ils emploient des choses qui me choquent.
Et vos parents, madame,
oui.
Faisaient-ils attention à la façon dont vous parliez?
Non, non, mais mon père était très sévère. Il était très sévère et... Par exemple, quand j'étais en classe, il fallait que je sois dans les premières. Sinon, je pense qu'aurait fait mon père.
Et prenait-il des sanctions quelque chose?
Non, non, parce que, voyez-vous, j'étais ou première ou deuxième. Je suis sortie première de l'école, etc. Vous voyez, et le jeudi, je ne jouais pas, je travaillais. Je passais tout mon temps à travailler, de peur d'être disputée par mon père.
Et votre instituteur ou institutrice faisait-il attention à la façon dont vous parlez?
Oui.
Pour quel genre de choses surtout?
Eh bien, surtout, j'avais un professeur de français, justement.
Oui.
Et alors, quand un mot m'échappait, par exemple, ou alors elle faisait une leçon, et je n'avais pas compris quelque chose. Alors, je levais le doigt, bien entendu, et elle me répétait... de façon plus claire, et elle appréciait que je m'intéresse, que je dise pas, moi j'ai pas compris, tant pis.
Alors madame, cette question va vous faire rire, mais je la pose quand même. Comment est-ce qu'on fait une omelette chez vous?
Eh bien, je prends une sorte de petit saladier. Je casse les œufs un par un dans une tasse. Parce que s'il y en a un qui est abîmé, qui n'abîme pas les autres. Et puis ensuite, je mets du poivre, je mets du sel, je les fouette, je prépare ma poêle, je mets de la matière grasse, je la laisse chauffer assez bien, et puis je verse mes œufs. Et ensuite, pour ne pas que ça attache avec une pelle spéciale, je soulève, de façon à ce que mon omelette soit bien cuite partout, et qu'elle soit pas, qu'elle n'est pas attachée à la poêle. Voilà comment je fais l'omelette.
Alors, vous n'êtes pas fatiguée, madame?
Je
vous pose encore des questions. Merci. Un étranger veut venir en France pour apprendre le français.
Oui.
Dans quelle région est-ce qu'il doit aller, d'après vous?
Plutôt à Paris.
Pourquoi?
Parce que on parle le français avec moins d'accent. S'il va dans le Midi, il va parler en roulant les airs, en chantant, et quand il ira dans le Nord, on ne le comprendra pas. Moi, j'en ai fait l'expérience. J'avais des amis qui habitaient le Midi, ils sont allés dans le Nord, on ne les comprenait pas, c'était moi qui étais obligée de parler pour eux.
Et est-ce qu'il y a des endroits qu'ils devraient éviter?
Pour apprendre le français, oui. Par exemple, le Berry, le Midi. Alors, partout, dans le Nord, c'est la même chose. On a, par exemple, pour dire à un enfant, on dit « ch'tio ». C'est pas français, ch'tio. Mm-hmm. Bon, notez bien que j'avais des amis qui étaient du Nord, ils étaient de Roubaix. Et quand je me suis mariée, justement, le monsieur était mon témoin, il a chanté le petit quinquin. Je ne sais pas si vous connaissez le petit quinquin. Mm-hmm. C'est que du patois. Et donc, quand on va dans le Nord, les gens parlent de cette façon-là. Alors, évidemment, c'est pas bien d'aller dans le Nord, c'est pas bien d'aller dans le Midi parce qu'ils ont un accent très fort, mais c'est tout de même des Français.
Et pour bien apprendre le français, quels gens devraient-ils fréquenter, les gens?
Bah, plutôt des universitaires.
Et d'autres?
Oui, des gens qui ont une profession dans laquelle ils doivent parler convenablement.
Est-ce qu'il y a des gens qu'ils devraient éviter de fréquenter?
Oh, des gens de basse classe qui parlent un mauvais français.
Et quelles sont, d'après vous, les difficultés de la langue française pour un étranger?
Les conjugaisons, je crois.
Est-ce qu'on parle bien à Orléans?
Vous savez, il y a des Beaucerons et des Solognaux. Je vous dis, moi ici j'ai des clients qui viennent, qui disent ben dame oui, ben vous voyez, c'est pas français ben dame oui. Comprenez? Mais enfin, si on va chez les commerçants à Orléans, par exemple, dans la rue Royale, c'est tout de même des gens qui parlent un bon français.
Et est-ce qu'à votre avis, le français est une langue difficile?
Pas pour moi, mais il me semble que pour les étrangers, ça doit être difficile.
En quoi, à part la conjugaison?
Ben justement, il y a tellement de mots qui se prononcent de la même façon et qui ne veulent pas dire la même chose. C'est ça?
Madame, quelqu'un est de passage à Orléans.
Oui.
Il vous demande ce qu'il pourrait faire pendant son séjour. Qu'est-ce que vous lui conseillez de faire?
Eh bien, il y a de jolis musées, il y a la cathédrale, il y a le parc floral, les bords du Loiret sont jolis à voir. Qu'est-ce qu'il y a autour d'Orléans? Tout dépend aussi de l'époque à laquelle ils viennent. Si par exemple ils viennent en septembre, ils peuvent faire une partie de chasse, ils peuvent se faire inviter. Il y a des tas de choses. Il y a beaucoup de clubs hippiques. Mm-hmm. Alors s'ils aiment faire du cheval, ils en ont la possibilité. Il y en a beaucoup. Il y a Ardon, il y a au Rabot, sur la route de Vierzon. Enfin, il y en a beaucoup ici.
Quelqu'un frappe à la porte, disons, de cette pièce. Qu'est-ce que vous lui dites?
Je lui demande ce qu'il veut. Si c'est moi qu'on veut. On demande. Et si c'est moi, je demande ce que l'on veut. Et puis je fais entrer, et puis je reçois les gens le mieux que je peux.
Et puis vous invitez quelqu'un à prendre quelque chose à la maison. Qu'est-ce que vous lui dites pour l'inviter?
Eh bien, je dis, voulez-vous boire quelque chose? Voulez-vous vous rafraîchir? Voulez-vous quelque chose de chaud? Voulez-vous du café? Voulez-vous du thé? Selon l'heure, selon la personne. Ça dépend qui se présente.
Je vais vous poser des questions sur la politique, si vous voulez. Mais lorsque vous votez pour un député, qu'est-ce que vous attendez de lui ?
Les réformes qu'il promet, en principe. Mais de toute façon, je suis contre le communisme. Ça, c'est difficile à expliquer, mais je suis contre. Parce que, je veux dire, quand j'étais jeune, en 1936, vous savez qu'il y a eu les premières grèves pour obtenir la semaine de 40 heures, etc. Et j'ai assisté à des défilés à Saint-Denis. Hein, et j'ai remarqué que tous les communistes qui défilaient en chantant l'Internationale étaient à moitié ivres et beaucoup étaient des voyous. Et ça m'a toujours frappé. Je crois que c'est... Ça m'a toujours frappé. J'ai gardé cette image-là dans mon souvenir et je ne pourrais pas m'en séparer. Ça m'a toujours déplu. Qu'est-ce qu'il y a,
la plupart des communistes en France, ils ont leur appartement.
Oui,
ils
c'est
ont
ça.
Leur...
Ah oui, attends, on va expliquer au monsieur. Quand on est allé en Russie toutes les deux, on est allé en voyage organisé, bien entendu, puisqu'on ne pouvait pas circuler seul. On est parti en autocar, donc on a visité les pays communistes, l'Allemagne de l'Est, la Pologne, enfin la Russie, bien sûr. Et dans notre autocar, il y avait un jeune ménage qui était communiste. Enfin, c'était terrible. Mais c'était des gens qui avaient une grosse situation, qui avaient leur voiture, qui avaient leur appartement, leur maison de campagne, qui pouvaient tout de même se permettre de faire un voyage en Russie à deux. Hein. Et avant, ils avaient fait un voyage dans toutes les capitales d'Europe centrale, donc c'est des gens qui avaient des moyens. Et ils se disaient communistes. Alors moi, ça m'a choqué. Vous voyez, c'est peut-être inexplicable, j'ai peut-être tort. Et, en principe, un communiste partage tout. Hein? Et quand on est communiste, qu'on se permet de faire des revendications, c'est qu'on en a besoin. Eux, ils sont communistes, pourquoi ? Et par contre aussi, il y avait une dame qui était là, alors une dame seule, qui était divorcée, je ne sais plus, une dame, oui, un petit peu plus âgée que moi, et elle allait en Russie pour raconter à son bureau, je suis allée en Russie parce que je suis communiste, mais elle ne visitait rien. Elle restait assise dans l'autocar quand on allait visiter les musées, on avait des belles choses à voir. Oui, c'était ma fille qui prenait les photos pour elle, parce qu'elle ne sortait pas de l'autocar. Alors elle allait là-bas pour dire, voyez, je suis communiste, je suis allée en Russie. Et elle n'a rien vu de la Russie. Il y a des choses à voir, il y a des magnifiques cathédrales, il y a des musées, c'est merveilleux, les paysages, il y a plein de choses à voir. Eh bien, cette femme-là qui se disait communiste, alors, moi j'estime qu'elle est... c'est ignorante. Alors, si tous les communistes doivent être sur le même modèle, il y en a peut-être des biens. Ceux que j'ai côtoyés ne sont pas intéressants. Alors, ça m'a pas... je ne suis pas encline à être de leur côté, vous voyez.
Et les députés que vous avez, pour lesquels on vote, vous avez dit qu'il faut... On fait des promesses, n'est-ce pas?
Oui.
Mais qu'est-ce que vous cherchez quand vous votez?
Bien, écoutez, moi, en tant que commerçante, hein, si un député promet de faire baisser les impôts, de voir au plus juste, je préférerais voter pour celui-là, il est pour moi, vous voyez, hein? Alors, en principe, on lui fait confiance quand on vote. On n'a pas toujours raison, mais... vous savez, je crois que si c'est d'un côté ou de l'autre, ils font toutes des promesses et elles ne sont pas toujours tenues.
Et dans les élections nationales en France, pourquoi y a-t-il deux tours?
Ah, parce qu'il y a la majorité. S'il n'y a pas la majorité, il faut refaire un deuxième tour. C'est ça? Il y a la majorité absolue.
Et comment est-ce qu'on décide son vote la seconde fois?
Comment
est-ce qu'on décide son vote la seconde fois?
Comment est-ce que l'on décide?
Parce que si vous avez voté, par exemple, au premier tour,
oui.
Il faut voter la deuxième fois, n'est-ce pas, au second
tour? Oui, je vote la même chose, moi. Je voterai la même... de la même façon, c'est ça que vous voulez dire. Si je change d'avis, non, je vote pour celui-ci, je revote pour celui-ci.
Si celui-là,
mais... à moins qu'il ne soit pas représenté sur la liste. Mais enfin, c'est l'équivalent, je vote pour l'équivalent.
Et quelle est la différence, pensez-vous, entre la droite et la gauche?
C'est difficile. difficile. En principe, la droite représente les patrons,
les capitalistes,
et puis la gauche, les ouvriers.
Les communistes, plutôt.
Bah oui, la gauche, c'est les communistes, c'est les prolétaires. Par contre, il y a des patrons qui sont communistes. Alors, c'est difficile à expliquer. Mm-hmm. S'ils sont communistes, alors ils n'ont qu'à donner leur usine à leurs ouvriers. Franchement.
Et les ouvriers?
Eux, ce qu'ils veulent, ils voudraient la part du patron. Puis le jour où ils seront patrons, ils feront comme les patrons. Ils essaieront de gagner le plus d'argent possible.
Mais on ne dit pas au patron qu'on est communiste ou capitaliste ou n'importe quoi, n'est-ce pas? Parce que quand on vote, c'est tout à fait secret.
Ah oui, oui, d'accord.
Et vous croyez qu'il y a une grande différence entre la gauche et la droite?
Vous savez, j'ai pas l'impression non plus, je suis de la vie de ma fille, j'ai pas l'impression. Mais tout le monde veut la même chose.
Et qu'est-ce qu'on cherche alors?
Le plus bien-être possible.
Inversement, personne n'est jamais content de soi.
Son sort, oui.
De son sort, personne.
Moi aussi, je suis contente de mon sort. Je ne me plains pas. Parce que, vous voyez, quand j'ai perdu mon mari, je me suis trouvée seule avec 4 enfants. J'ai eu des moments très difficiles. Et la chance que j'ai eue, c'est d'avoir été conseillée par un de mes beaux-frères. Et en me disant, tu as un peu d'argent, achète un appartement. Et quand j'ai été souffrante, j'ai dû quitter Paris. Enfin, j'ai voulu quitter Paris parce que c'était une vie de fou. J'ai vendu mon appartement, ça m'a fait un capital pour acheter mon bar.
Alors, je veux vous poser une question qui est la dernière.
Oui.
J'ai entendu parler de ce qu'on appelle les cadres.
Oui.
Qu'est-ce que vous entendez par ce mot cadre?
Eh bien, mon mari était cadre. Mon mari. C'est-à-dire que. Il était chef comptable. Hein. Il était donc chef. C'est les cadres. Les chefs sont cadres. C'est ceux qui dirigent les personnes qui ont des emplois subalternes. Voilà comment je vois les cadres.
Mais on parle des cadres moyens, des cadres supérieurs.
Ah oui, évidemment, si vous êtes chef de bureau ou chef de service ou directeur commercial ou directeur général ou administrateur, ce sont les cadres supérieurs. Un cadre moyen, c'est un chef de bureau, par exemple. Et puis un cadre supérieur, c'est un chef de service. Par exemple, mon mari était chef de service, lui. Alors lui, c'était déjà un cadre plutôt supérieur.
Et vous croyez que ça a un rapport avec la classe sociale?
Non, non. Non, c'est une question de valeur, c'est une capacité.
Merci, madame.